Alors, je vais vous parler un peu de la communication, mais dans la dimension biblique. Comment la Bible vient éclairer la communication. Vous avez vu de façon admirable des méthodes pour rentrer en communication non violente. Et dans la Bible, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui. Donc vous avez été demandé d'apporter la Bible, chacun d'entre vous. J'espère que vous l'avez. Vous pouvez regarder vos téléphones si vous avez. Vous avez plus vos téléphones que la Bible, qui est un signe. OK. Et donc, la question de la Bible. Alors, parce qu'on peut aborder les choses de façon très différente, selon les manières de faire, etc. Je voudrais partir de la tour de Babel. La tour de Babel, cette tour, donc on est en Genèse 11, 1 à 9. Donc vous prenez vos Bibles Genèse 1 à 9. Et le texte dit la chose suivante. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays des Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom. Et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Le Seigneur dit, voici qu'ils font tous un seul peuple, parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Le Seigneur les dispersa de la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que le Seigneur confondit les langages de tous les habitants de la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Intéressant de partir de Babel. Babel, qui veut dire Babylone en fait, donc c'est en Irak. Babel, c'est donc on est en Genèse 11, 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9, pour ceux qui ont la Bible. Donc qui désigne cette fameuse ville où il y a une tour qui a voulu rejoindre le ciel, donc ce lien entre le ciel et la terre. Et du coup, à peu près 3 millénaires avant Jésus-Christ, et aujourd'hui, ce n'est qu'un immense champ de ruines et un site antique, hein, Babylone en Irak. Babel, ça signifie plusieurs choses. Babel, ça signifie porte de Dieu en acadien. Mais en hébreu, ça veut dire confondre, balbutier. Hein, cette double étymologie, hein, rend bien compte de l'ambivalence de cette cité et de sa tour. Sont à la fois le signe de la merveille et de la malédiction. C'est intéressant de voir que cet épisode de Babel a été précédé par plusieurs épisodes qui ont été difficiles pour l'humanité. Premièrement, l'expulsion d'Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden, le bannissement de Caïn, meurtrier de son frère, le déluge, et enfin Babel. Hein, la dispersion des hommes qui cessent de parler la même langue. Qu'est-ce qui est dit à travers ce texte? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui est dit de la communication? C'est un texte qui parle de la communication parce que précisément, il n'y avait qu'une seule langue au début, mais le fait d'avoir qu'une seule langue au début était un problème. Et le fait d'avoir qu'une seule langue faisait que pour parler à Dieu, pour s'adresser à Dieu, il y avait une forme d'orgueil de la nature humaine. Un orgueil de la nature humaine que l'on peut retrouver aussi dans la vie de l'entreprise. Il n'y a qu'une pensée unique, il n'y a qu'un chemin. Et on voit bien que dans l'entreprise, c'est quelque chose de compliqué d'avoir une manière de penser, une manière d'agir différente de celle des dirigeants, différente de celle des actionnaires, qui en dernier lieu imposent leur voix aussi aux dirigeants. Donc on sent qu'il y a une forme de toute-puissance dans cette dimension de Babel. Et en chacun de nous, il y a aussi une sorte de toute-puissance. Donc du coup, l'expérience de Babel, qui est à la fois porte de Dieu et puis à la fois confusion, les hommes ont confondu à un moment donné comment aller vers Dieu et comment, au fond, quel était vraiment le chemin vers le Seigneur, parle aussi de à la vie professionnelle. Hein, il y a des entreprises qui sont dans une toute-puissance. Hein, on parle des GAFAM, etc. Oui, certainement. C'est des entreprises qui ont plus de pouvoir que des États. Ce n'est pas normal. Et c'est dans une toute-puissance. Oui, donc c'est intéressant de dire qu'au fond, quand il n'y a qu'une seule manière, parce que c'est ça, Babel, c'est il n'y a qu'un langage, il n'y a qu'une manière d'aller vers Dieu. Il n'y a qu'une manière d'aller vers Dieu. Il n'y a qu'une manière de s'adresser à lui à travers cette langue. Alors, quelle était cette langue? Alors, beaucoup, évidemment, les rabbins se sont posé la question, mais quelle était cette langue que parlaient les Babyloniens avant la confusion des langages? Quelle était cette langue? Ça reste encore une énigme. Mais de dire qu'il n'y a qu'une langue, c'est un problème. Et au contraire, la richesse vient de la multiplicité des langues. La richesse vient de l'altérité. La richesse vient d'une autre manière de penser. Vous savez, une langue, moi j'ai vécu plusieurs années en Amérique latine, mais une langue véhicule forcément une manière de penser, une vision du monde. N'avoir qu'une seule langue, c'est qu'une seule manière de penser, qu'une vision du monde. Et ça, c'est problématique. Et ça se retourne contre la personne humaine à la fin. Ça a été le sujet de toutes les. Au fond, les totalitarismes ont voulu n'avoir qu'une seule manière de penser, et donc du coup, une manière de s'adresser aux hommes, ou alors les théocraties aussi, les théocraties, c'est-à-dire qui ont construit le régime politique autour de la religion, il n'y a qu'une seule religion pour s'adresser à Dieu et s'adresser aux hommes. Et ce qui est intéressant dans l'épisode de Babel au niveau de la communication, c'est que le lien de la communication avec Dieu dit quelque chose de la communication entre les personnes elles-mêmes. Si je ne mets qu'une seule manière de m'adresser avec Dieu, il y a aussi une difficulté à accepter l'autre comme autre, c'est-à-dire à accepter l'altérité. Vous voyez donc, et je me souviens de ce passage du pape Benoît XVI, qui est vraiment extraordinaire, qui est très inspirant, pape Benoît XVI, je vous encourage à lire, qui est vraiment un homme qui a au niveau de la connaissance, un universitaire, c'est un intellectuel, et un journaliste lui posait la question suivante: combien y a-t-il de manières de s'adresser à Dieu, combien y a-t-il de manières d'être chrétien? C'était plutôt ça. Sachant que, avec la mauvaise réputation qu'on avait fait à saint homme de Dieu, il aurait dit qu'une seule manière, la foi catholique. Mais non. Il a dit autant que de personnes. Autant que de personnes. Et il n'est pas dans le relativisme. Parce que le relativisme, c'est à chacun sa vérité et tout se vaut. Non. Il n'est pas du tout dans cette dimension-là. Il y a autant que de personnes de s'adresser à Dieu. Et bien malin celui qui peut dire votre personnellement, de façon intime, votre lien avec le langage que vous employez pour vous adresser au Seigneur. Et quel langage le Seigneur emploie pour s'adresser à vous. Oui, donc je trouve ça intéressant cette question de Babel qui est porte de Dieu et à la fois voilà, confusion. Quand la personne veut utiliser le rapport avec Dieu comme un pouvoir. Et dans toute l'histoire des religions, quelle qu'elle soit, il y a eu des périodes où la religion ou la foi a été au service d'un pouvoir, où le pouvoir a utilisé sa foi pour s'affermir et se répandre. Donc, dès qu'il y a une forme de pensée unique, soyez en alerte. Soyez en alerte parce que, justement, nous, dans l'Église, on vit quelque chose de très différent. Il y a plusieurs manières d'être catholique, tout en étant rattaché au Saint-Père, mais il n'y a pas qu'une seule manière d'être catholique. Il n'y a pas non plus qu'une seule manière d'être chrétien. La preuve, il y a quatre évangélistes. Oui, donc d'accueillir, sortir de Babel, de cette Babel qui est en nous, qui à la fois veut aller vers le Seigneur, porte de Dieu en acadien, mais à la fois est une sorte forme de confusion, une manière confuse de s'adresser au Seigneur, eh bien, elle est en nous. Donc soyons attentifs quand nous, peut-être nous nous faisons juge des manières, des chemins de vie, des chemins spirituels que les autres emploient et qui ne sont pas nos chemins. Hein? Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes chemins, dit le Seigneur, sont éloignés des vôtres. Hein? C'est-à-dire que accepter d'une certaine manière de sortir de l'orgueil, qui précisément faisait que, quand vous regardez un peu le texte, je vous invite à le relire après, mais il y a des choses intéressantes parce que, par exemple, le fait qu'ils soient tous rassemblés dans un même endroit. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. C'est intéressant ça. Faisons-nous un nom. Or, quand vous regardez Genèse au chapitre 1er, Adam n'a donné qu'un nom qu'aux animaux, mais il ne s'est jamais donné un nom à lui-même. Donc c'est intéressant, c'est de voir. Et puis, au contraire, le Seigneur lui a dit, allez et peuplez, reproduisez-vous et peuplez la terre. Et non pas, soyez rassemblés tous ensemble pour ne faire qu'un sur un seul point de la terre. Oui, il y a comme une contradiction par rapport à la demande du Seigneur en Genèse, et qui fait justement que c'est là qu'elle situe l'orgueil. C'est parce que cet orgueil, je me dis aussi, cet orgueil-là vient, je vous ai dit, après des expériences qui sont difficiles. Hein, l'expulsion du jardin d'Éden, le déluge, Caïn et Abel, etc. Comment aussi nous-mêmes, quand nous vivons des épreuves, nous avons tendance à nous raidir. Nous avons tendance à, d'une certaine manière, vouloir que ma propre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que, quand on vit des épreuves, certains voient la toute-puissance comme une solution. Je ne me ferai plus avoir. Et donc, on va se rassembler dans un seul point, c'est ce que dit le texte. Hein, on va ne parler qu'un seul langage et on va donner un nom. Faisons-nous un nom. Eh bien, c'est-à-dire que nommer, hein, c'est dire l'être des choses, nommer, faisons-nous, alors que non, c'est Dieu qui nomme. Donc c'est intéressant de voir cette différence entre la parole de Dieu qui invite à occuper toute la terre, peupler la terre, habiter là, la parole de Dieu qui dit, qui donne un nom à l'homme, mais l'homme qui donne un nom aux animaux, et cette parole de Babel, où au contraire il veut être rassemblés dans un seul point et se donner un nom à eux-mêmes. Hein, sur des terres, ils avaient mis leur nom, c'est le psaume qui dit ça, hein, se faire un nom, hein, vouloir à toute force, à la force du poignet, vouloir perdurer uniquement par sa puissance et au fond par son orgueil. Donc je trouve ça intéressant en tout cas de dire quand nous avons subi des épreuves, la tour de Babel n'est pas loin. La tour de Babel n'est pas loin parce que elle est précisément une fausse réponse à l'épreuve. Elle est une fausse réponse qui va nous blesser davantage. Quand nous pensons de la toute-puissance, on voit bien, et c'est tellement humain, de répondre à l'épreuve par la toute-puissance. De répondre à l'épreuve par l'orgueil, par la une certaine violence, une certaine manière de s'imposer, on ne mourra plus. On guérit des mauvaises expériences par des bonnes expériences. Vous voyez, c'est ça, on guérit des mauvaises expériences par des bonnes expériences. Et on voit que dans la vie professionnelle, des personnes qui ont le pouvoir, parce qu'il s'agit de pouvoir, le langage c'est le pouvoir. Je veux dire, encore plus de nos temps que par les temps bibliques, où c'était les temps bibliques, c'est aujourd'hui c'est beaucoup l'image qui est le pouvoir. Donc, mais On voit bien dans les entreprises des personnes qui veulent asseoir leur pouvoir dans une imposant aux autres une seule manière de penser. Une seule manière de penser. Il n'y a qu'une seule voie. C'est tous les totalitarismes qui sont comme ça. Les totalitarismes ont horreur de l'altérité. Les totalitarismes ont horreur de la diversité. Ont horreur d'une certaine fragilité. Justement, c'est intéressant qu'on parle pour prendre le cas de l'Allemagne. Comment est né, comment est monté de façon, a été élu démocratiquement Hitler, si ce n'est après la grande blessure et la grande humiliation de la guerre de 14 et le traité de Versailles qui a réduit l'Allemagne, qui est une grande erreur aussi, mais qui a réduit l'Allemagne à l'état de peau de chagrin. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne gagne jamais en humiliant son adversaire. Mais soyons attentifs à lui laisser une porte où il ne perde pas la face. Parce que ça se retournera contre nous. Donc, je trouve ça intéressant de faire le lien entre Babylone et l'histoire, et peut-être nos histoires personnelles, où nous avons été, dans nos vies professionnelles, puisqu'il s'agit d'un week-end jeune pro, dans nos vies professionnelles, nous avons pu être blessés, voire humiliés, voire le sentiment de ne pas être reconnu, et nous avons répondu avec une dureté de cœur qui est tellement humaine, mais peu en lien avec la foi chrétienne. Voilà, donc je pense que Babel, hein, c'est quelque chose qui doit nous interroger et de faire le lien entre la communication avec Dieu et la communication entre les personnes elles-mêmes, hein, et que l'orgueil est source des difficultés de communication. Soyons attentifs à ce que, de dire que, par rapport à la communication, renonçons au paradis terrestre. Renonçons au paradis terrestre, ça veut dire quoi ? Renonçons à une communion parfaite entre les hommes. Renonçons à ce à quoi nous aspirons, à se comprendre. Il y a quelque chose du deuil à faire. Du deuil à faire de dire, ce paradis terrestre, nous y renonçons parce que nous croyons que le Seigneur nous attend dans l'au-delà et dans le face-à-face. Et donc, les actes de communication, les process de communication qu'on va mettre en place vont être comme des signes pour nous chrétiens, vont être comme des signes du monde qui vient. Du monde qui vient où Dieu sera tout en tous, où la communication sera en Dieu. Et là, il n'y aura plus ni d'armes, ni douleur. Voilà. Parce que l'amour de Dieu, Dieu sera tout en tous. Mais en attendant, sur cette terre, même entre les époux les plus amoureux, même entre les amis les plus liés comme les doigts de la main, eh bien, la question de la difficulté de communiquer persiste. Donc, nous-mêmes, comme chrétiens, quelque part, on est mieux, outillés. Vous voyez ? On est mieux outillés. On est mieux outillés parce que, justement, c'est le fait d'avoir la foi, ça nous permet parfois de relativiser un certain nombre de choses, de relativiser les difficultés de communication qu'on pourrait avoir avec nos supérieurs, avec les collègues, etc., ou même en famille, parce qu'évidemment, la famille est touchée. Et on est mieux outillé parce que, on a des personnes ressources, des lieux ressources pour pouvoir répondre à ça, mais aussi, je trouve qu'on est mieux outillé parce que, d'une certaine manière, on n'est pas surpris. Ça ne nous prend pas au dépourvu. Le fait des difficultés de lien, de lien interpersonnel, ça ne nous prend pas au dépourvu. Vous voyez, donc, je trouve que c'est intéressant de voir ça, de dire que dans la Bible, cet épisode de Babel, qui est très fort, hein, et dont on ne reparlera pas après, on ne va pas reparler après de Babel. Dans toute la Bible, il ne sera jamais fait mention de Babel, qui est d'une certaine manière le plus grand échec de l'humanité, hein, pour se faire un nom, etc. Et en même temps, la plus grande réussite. Je trouve, ça intéressant, quoi. Donc, je mets peut-être une citation de Paul Ricoeur. Ça vous dit quelque chose, Paul Ricoeur, qui est un philosophe, qui dit « Babel, c'est la destruction du langage comme instrument de communication. Or, le langage est frappé à la fois comme pouvoir de l'individu et comme institution par la dispersion des langues et par malentendu à l'échelle des ensembles culturels, des nations, des classes, des milieux sociaux. » Voilà, c'est Babel, c'est vraiment le langage. Rentrer en communication avec l'autre demandera du travail. Ça demandera du travail, ça demandera des efforts. Ce n'est plus spontané. C'est pas parce que auparavant, avant le péché originel, où Dieu était tout en tous, le lien entre nous se faisait par Dieu. Mais là, le lien entre nous demandera un effort. Donc ne soyons pas surpris que communiquer demande un effort. Que communiquer n'est pas spontané. Et c'est pour ça qu'on met en place des tas de process pour apprendre justement à communiquer, parce que c'est la difficulté qu'on rencontre, que chacun d'entre nous, quoi. Donc j'aimerais bien vous lire un autre truc, hein. J'arrive pas à le trouver. Hop. Alors. Pas grave. Donc, d'une certaine manière, c'est le plus grand échec, mais qui donne la plus grande fécondité, Babel. Parce que c'est ce qui permet justement de reprendre, au fond, d'accepter des manières de penser, hein, des manières de voir assez différentes. Maintenant, un autre point que j'aimerais bien vous partager avec vous, c'est un peu les anti-Babel dans la Bible. Les anti-Babel dans la Bible, c'est l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, je ne sais pas si c'est quelque chose que... Ça vous dit quelque chose, l'échelle de Jacob ? L'échelle de Jacob. Alors, on est en Genèse 28, 11 à 19. Genèse 28, 11 à 19. Regardez dans vos bibles, dans vos portables, etc. Hein, c'est l'envers de Babel dans la perspective chrétienne, la reconstruction d'une union et d'une communication entre les hommes, mais avec une alliance rétablie entre le ciel et la terre, où c'est Dieu qui établit les choses. Alors, je vais vous les lire, donc vous avez en Genèse 28, 11 à 19. Jacob quitta Beersheba et s'en alla vers Haran. Il arriva en ce lieu et y resta pour la nuit, car le soleil s'était couché. Prenant une des pierres de l'endroit, il la mit sous sa tête et s'allongea pour dormir. Et il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre, dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Et il aperçut des anges qui la montaient et qui la descendaient. Et il vit Dieu qui se trouvait en haut ou à ses côtés et qui disait « Je suis Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ton père. La terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Et tes descendants seront comme la poussière de la terre et s'établiront vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. Et par toi, tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. « Vois, je suis avec toi, je te protégerai où que tu ailles, et je te ramène à cette terre, car je ne te laisserai pas tant que je n'aurai pas accompli tout ce que je viens de te parler. » Jacob se réveilla alors de son sommeil et dit « Sûrement Dieu est présent ici, et je ne le savais pas. » Et il est effrayé, il n'y a rien que la maison de Dieu ici et la porte du ciel. Alors, c'est intéressant de faire ce parallèle entre l'échelle de Jacob et Babel. L'échelle de Jacob. Premièrement, dans l'échelle de Jacob, Jacob est endormi. Il fait un songe. Or, le fait d'être endormi, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de lâcher prise. Dans l'endormissement, ce n'est plus nous qui sommes aux manettes. Dans l'endormissement, voilà, on se laisse aller. Hein, la nuit que vous avez passée, j'espère qu'elle a été bonne, voilà, autant que faire se peut. Dans cette nuit que vous avez passée, en tout cas, vous avez eu des moments, peut-être pas toute la nuit, mais des moments de lâcher prise. Des moments où vous êtes, quelque part, laissé aller. Oui.
C'est quoi l'échelle de Jacob? J'ai pas bien compris.
L'échelle de Jacob, c'est ce que vous avez le texte ou pas?
Oui.
Eh bien, c'est marqué. L'échelle de Jacob. Alors, vas-y là. Alors, qu'on appelle l'échelle de Jacob. La terre, quelque chose qui rejoint le ciel. Vous voyez ça ou pas? Non, quelque part. Il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. C'est ça l'échelle de Jacob. Il rêva de ça. Il vit. Et Jésus fera allusion à l'échelle de Jacob. Donc c'est toujours bien quand Jésus parle de savoir de quoi il parle. Il parle de ça. Donc il rêva qu'il y avait une échelle qui partait de la terre et qui rejoignait le ciel. Et qu'est-ce qui partait de la terre et rejoignait le ciel dont je vous ai parlé? Babel. L'échelle de Jacob, c'est l'anti-Babel. C'est l'anti-Babel. Tous les hommes ont souhaité rejoindre le ciel. Certains ont construit à la force du poignet une tour, ont voulu imposer leur point de vue, leur pensée unique, leur vision unique, Babel, et ça terminait dans la confusion et le bain de sang. D'autres ont accueilli cette manière de rejoindre le ciel, ce lien entre le ciel et la terre. Et puis il y a un autre lien, porte, c'est intéressant, la fin du... Vous avez le texte devant vous, hein. Comment ça se termine au verset 19? Je vous écoute. Plus fort. Le verset 19. Bethel, mais juste avant, il n'y a rien que la maison de Dieu, et ceci est, et porte du ciel, comment ça se dit en acadien? Babel. Il y a peut-être des liens là. Oui, jeune homme. Non, l'Acadien, l'Acadien en Irak. On parle de l'Irak, 3000 ans avant Jésus-Christ. Non, faut pas confondre les choses. Non, l'Acadien, l'Acadien, c'est bon. Qu'ensuite ils aient attribué ça à une des contrées du Canada, c'est possible. Mais a priori, la parole de Dieu n'a pas été révélée d'abord au Canada. Sinon, ça se saurait. Donc, c'est intéressant de voir. À la fin, ce nom s'appelle Porte du Ciel, comme Babel, en acadien, en Irak. Ça veut dire Porte du Ciel. Mais, parce qu'on cherche tous une Porte du Ciel, mais il y a différentes manières de rejoindre la Porte du Ciel. Soit par la volonté propre, soit dans le lâcher-prise et le songe. C'est-à-dire, quelque part, soit dans la manière de... Quelque part, où on se laisse aller. Vous voyez ce que je veux dire? Où ce n'est plus nous qui agissons, c'est Dieu. Nous sommes agis par Dieu. C'est ça l'anti-Babel. On verra un autre anti-Babel après. Mais Babel, il y a un anti-Babel, l'échelle de Jacob. Une échelle... Il songea d'une échelle qui rejoignait le ciel et la terre. Hein, la terre et le ciel. Hein, mais cette échelle-là, c'est Dieu elle, lui-même. C'est cette alliance que Dieu a scellée. C'est d'abord ça. Et c'est intéressant quand vous lisez le texte de l'échelle de Jacob. Qu'est-ce que vous lisez? La terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à tes descendants, etc. Ils s'établiront vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. Ça s'oppose à quoi? À Babel, Babel qui était quoi? Et il faut un seul, voilà. Babel, c'était un seul lieu. Et ils s'établiront vers le nord et vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. C'est-à-dire qu'ils peupleront la terre, ils se dissémineront. Qui est l'obéissance à la parole de Dieu? Reproduisez-vous et peuplez la terre. Alors que dans une toute puissance, on veut se regrouper de façon identitaire, une seule manière de penser, une seule manière de croire, une seule manière d'aller vers Dieu, et ça se termine dans le bain de sang. Est-ce que c'est à peu près clair? Oui? Je trouve ça... N'hésitez pas à poser des questions. Merci pour ta question, mais n'hésitez pas, parce que c'est peut-être des textes avec lesquels vous n'êtes pas familier, mais je trouve ça assez saisissant. L'échelle de Jacob, et c'est intéressant, voyez comme le Christ ensuite parle de cette échelle de Jacob. Je vis les anges monter et descendre, etc. Reprenez ça, je ne vais pas parler parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais le Christ fait allusion à l'échelle de Jacob. Et dans le songe, il y a forcément un lâcher-prise qui est tout à fait opposé à quoi? À la toute-puissance de la tour de Babel, à construire une tour. Voilà. C'est bon? Ça vous va comme ça? Hein? Jacob, cela. Je suis avec toi, etc. Hop, hop, hop. Tes descendants, voilà. Et par toi, tes descendants et toutes les familles sur la terre seront bénies. Vois, je suis avec toi, je te protégerai où que tu ailles, je te ramènerai à cette terre, car je ne te laisserai pas tant que je n'aurai pas accompli tout ce dont je viens de parler. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'au fond, la fécondité de nos vies, j'en ai parlé dans l'homélie, la fécondité de nos vies réside aussi dans un accueil d'une certaine fragilité. La fécondité de nos vies, la toute-puissance, l'orgueil, rend nos vies stériles. La fécondité de nos vies, c'est l'accueil de la fragilité et rentrer dans l'humilité. Dieu agit dans un songe, le lâcher prise, et puis porter du fruit, justement, accepter la diversité, la pluralité des manières de dire les choses. Hein, quelque part, c'est le début, on peut dire, de la multiculturalité. Et j'aime bien ce passage d'Eri Luca, Eri De Luca, qui est un écrivain et un journaliste italien. Quand il parle justement de Babel, il dit « Ce fut le projet de construction le plus grandiose de tous les temps, qui lui valut pour ça l'échec le plus fécond. Dieu la détourna de cette impasse. On ne pouvait atteindre le ciel avec des pierres et de la chaux. Dieu intervint par le don mystérieux des langues qui nous contraint à apprendre des multiples façons de nommer le même soleil, le même pain. Voici qu'avec la multiplication des langues se multiplient les horizons. Il ne fallait pas monter au sommet du ciel pour survivre. Il ne fallait pas se retrancher dans une défense, mais se lancer dans l'aventure du monde. Dieu enseigne ici que plus elle est variée, plus elle se met à l'épreuve, plus l'espèce humaine est forte. Toute tentative de lui donner un seul sang, une seule nourriture, une seule médecine va dans la mauvaise direction. Hein, c'est Eri De Luca. Hein, donc, tout ça intéressant. Ça reprend la même idée, mais dit autrement, de dire que d'accueillir la multiplicité, d'accueillir un certain multiculturalisme à l'époque d'un raidissement des identités, à l'époque où certains vous proposeront Babel, eh bien vous aurez la parole de Dieu en tête, que Dieu a semé la confusion dans ce style de démarche. Mais c'est vrai que d'accueillir la diversité, d'accueillir une pensée autre que la mienne, c'est toujours un déplacement. C'est compliqué. Ne nous faisons pas d'illusions. C'est compliqué, pour vous que pour moi. En communauté, nous avons différentes manières de voir les choses. Comme dans la vie professionnelle, je fais le lien aussi, comme dans la vie professionnelle, en communauté, nous ne sommes pas choisis les uns les autres. C'est Dieu qui nous a choisis, ou dans la vie professionnelle, le responsable hiérarchique qui a choisi. Mais vous n'avez pas choisi vos collègues. Et vous voyez bien que c'est difficile parfois d'être en lien, je trouve, avec des personnes qui viennent de raisons complètement différentes. Mais dites-vous, justement, pensez à Babel et pensez à l'échelle de Jacob, de dire, est-ce que ce n'est pas un lieu, justement, où Dieu se donne ? Dans cette altérité, dans cette différence, dans cette... compliqué, on dit la différence est une chance, etc., pas toujours. Ne soyons pas... Mais est-ce que ce n'est pas un lieu aussi où Dieu se donne ? Et puis j'aimerais terminer par la Pentecôte, qui est par définition l'anti-Babel. Alors, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un grand bruit survint du ciel, comme un coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et se posa sur chacune d'entre eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans sa propre langue ceux qui parlaient. Ils, dans leur stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, de la province de Pont et d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, Juifs de naissance et convertis, Crétois, tous nous entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. » Et ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Et voilà, d'autres se moquaient d'eux, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration, « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » C'est le récit qu'on va lire à la Pentecôte, donc des Actes des apôtres, qui est vraiment extraordinaire. Moi, je fais comme une découverte, vous voyez, une découverte, je veux dire, avec la Pentecôte, le signe de la Pentecôte, c'est la diversité des langages. La diversité des langages, mais chacun comprend dans sa propre langue. C'est-à-dire que quand on est mu par l'esprit, on comprend l'autre. Il y a une forme de comprendre l'autre, une manière d'être attentif à l'autre, d'une certaine manière de le rejoindre de façon différente. De voir que la Pentecôte, ce n'est pas le langage qu'elle s'établit, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est étonnant de voir que la venue du Saint-Esprit, avec les langues de feu aussi qui reposent sur chacun, on aurait pu s'attendre comme à une nuée, on aurait pu s'attendre à des signes beaucoup plus forts, des signes d'une théophanie plus forte, mais il n'est pas question de quelque chose qui soit manifeste de la manière de la théophanie, la présence de Dieu, non. C'est par le langage que l'Esprit-Saint vient à notre rencontre et que chaque chose qui nous amène à nous interroger, pourquoi cette pédagogie ? Pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, a-t-il choisi cette méthode du langage ? Chacun comprend l'autre, chacun parle des langues différentes, mais le comprend dans sa propre langue. C'est exactement l'anti-Babel. L'anti-Babel, il n'y avait qu'une seule langue, qu'une seule manière. Là, il y a une diversité de langues, mais chacun le comprend dans sa langue maternelle. C'est-à-dire que quand c'est Dieu qui agit, quand c'est Dieu qui est au centre, on arrive à comprendre l'autre. Quand on met le Seigneur au centre, on arrive à comprendre l'autre qui s'exprime différemment de nous, mais avec nos propres codes, avec nos propres visions du monde. C'est ça, c'est ça le challenge de la Pentecôte. Hein, la manière dont nous formulons les choses, la manière dont nous nous exprimons, c'est une fenêtre sur le monde. Cela dit quelque chose de nous à tel point que l'on parlera de langage verbal, de langage non-verbal. Hein. Donc l'Esprit-Saint, remarquez bien, l'Esprit-Saint qui est dialogue. L'Esprit-Saint, c'est un dialogue. Dialogue entre le Père et le Fils. Donc l'Esprit-Saint, c'est un langage. Et l'Esprit s'adresse à notre esprit, c'est-à-dire il parle à notre esprit avec la manière dont nous avons de comprendre les choses. Hein, et c'est ça, là où on voit l'Esprit-Saint, c'est il nous parle selon notre propre langue. Hein, et dans la Pentecôte, on voit chacun parler sa langue, mais chacun la comprenait dans sa langue maternelle, c'est-à-dire dans sa propre vision du monde, tout en acceptant les visions du monde des autres. Et je trouve vraiment c'est un autre rapport au langage. Hein, la Pentecôte, c'est un rapport au langage qui est différent. La Pentecôte, c'est une communication qui est différente. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une théophanie comme on voyait auparavant avec la nuée, etc. Ce n'est pas une théophanie, c'est-à-dire un signe manifeste très puissant, etc., de la présence de Dieu, non. C'est uniquement par le dialogue que Dieu se donne. Et le dialogue, dans l'altérité des personnes, je comprends dans ma propre langue. Parce que quoi ? Parce que Dieu est au centre. Et c'est ça la clé. L'Esprit Saint, Dieu est au centre, l'Esprit Saint est au centre. Voilà, donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, et puis peut-être aussi vous écouter, peut-être que vous avez des questions. Oui ? Oui, l'évangélisation, c'est vraiment comprendre l'autre dans son langage, oui. D'autres qui veulent faire des témoignages ou des questions, etc.
Ensuite, sur la différence entre justement ce que vous énonciez et le relativisme.
La différence, justement, le relativisme, et je vais vous donner cette citation du pape Benoît XVI dont on ne peut pas... Vous voyez, tout le monde voit ce que c'est le relativisme ? Relativisme, c'est... Oui, vous le définiriez comment ? Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas quelque chose de commun. À chacun sa vérité. Et ça tue le dialogue. À chacun sa vérité, qui est la culture ambiante. Tu penses ça, je pense ça, je te respecte, tu me respectes. Mais il n'y a plus de dialogue. Quelle est la différence avec la Pentecôte ? Dans la Pentecôte, il y a quelque chose de commun. C'est la présence de Dieu. Donc, le fait d'accueillir l'autre dans une langue différente demande un tronc commun. Et ce tronc commun, c'est l'Esprit-Saint qui le donne. Oui, je peux t'accueillir dans la manière différente si toi-même, tu es à l'écoute du Seigneur. Si nous avons quelque chose de commun entre nous. Parce que si c'est juste la juxtaposition d'individus, ça ne formera jamais communauté. Ça ne formera jamais une communion. Vous comprenez ça ? Et merci pour ta question, parce que c'est pas l'accueil de la différence de l'autre n'est pas le relativisme. Au contraire, le relativisme, c'est que se dire chacun se pense ce qu'il veut, et puis même pas Dieu pour tous, parce qu'il n'y a plus de lien. Là, non. Nous affirmons une présence de Dieu dans nos vies, qui nous fait un ciment, mais nous accueillons la manière d'accéder au Seigneur, différente selon chacun. Mais il y a quelque chose de commun. Oui ? Oui.
J'ai encore oublié le premier et le dernier. Ah,
alors ça c'est... Alors qui peut dire ? On va voir ce... Il y a quoi alors ? Il y a là, ré... Réciprocité et égalité. Et la bienveillance qui est un des critères aussi de vouloir le bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, d'amitié entre bandits. Oh, c'est bien, il y en a qui ont écouté quand même, c'est bon. C'est une consolation pour le prédicateur. D'autres questions, mes amis ? Oui. Oui.
Quand on parle à quelqu'un qui n'a pas de Dieu dans notre vie, ou quand on parle à quelqu'un qui n'est pas notre ami,
il est plus difficile. Il est plus difficile, le lien est plus difficile à construire. On se comprend moins. Maintenant, on essaie toujours de trouver qu'il y a au moins la nature humaine commune entre nous. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans l'homélie, c'est que qu'est-ce qui fait l'égalité ? Pourquoi est-ce qu'on peut appeler Dieu ami ? Parce qu'il y a la nature humaine entre le Christ et nous. Mais dans aucune autre religion, aucune autre, vous pouvez y aller, on appelle Dieu ami, jamais. Voir c'est blasphématoire. Prenez conscience que notre religion est complètement différente de celle des autres. Mais alors, justement, de se dire, tiens, on n'a pas choisi l'autre dans le monde professionnel, etc., des manières... Qu'est-ce qu'on va trouver, alors, c'est intéressant, la communication non-violente, qu'est-ce qu'on va trouver un peu d'universel avec lequel dialoguer ? Est-ce que ce n'est pas de l'ordre des besoins, par exemple, de l'autre ? Est-ce que c'est pas... Ça a été l'intuition du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, qui est... bon, ça nous emmène un peu loin, mais qui était pétri par ce qu'on appelle la philosophie personnaliste. Hein, le personnalisme, c'est-à-dire que ce que vit la personne a quelque chose d'objectif aussi. Et donc de rejoindre l'autre dans son désir de bonheur, dans son désir de communion. Il y a des choses qui sont universelles. Alors oui, ils ne partent pas de nous, de nos présupposés, mais comme nous partageons la nature humaine, il y a quelque chose dans la nature humaine qui est commun. Donc nous, comme chrétiens, on est beaucoup mieux dotés que les autres, parce que justement, on a un bagage. Et donc, on sait vers quoi tendre, on sait, voilà. Mais ce savoir vers quoi tendre ne veut pas dire exclure ceux qui ne pensent pas comme nous, non. Ceux qui ne pensent pas comme nous, on va les interroger. Quel est ton chemin vers Dieu ? Quel est ton chemin vers ton bonheur aussi ? Quel est ton... parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de parler de Dieu dans l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que... Parle-moi de ton chemin. Est-ce que c'est juste regarder Netflix et puis faire tes courses au supermarché ? C'est ça ton chemin ? Est-ce que tu as autre chose ? Oui ? C'est clair ? D'autres questions ? Oui ? Il y a une forme de toute-puissance dans toutes les nations. Est-ce que les Twin Towers, ce n'étaient pas les tours de Babel ? Est-ce que ce désir d'avoir la cathédrale la plus grande, ce n'est pas une tour de Babel ? Allez voir à Beauvais, ils voulaient avoir la cathédrale plus grande que celle de Noyon, et moyennant quoi, c'est une catastrophe au plan architectural. Il faut la soutenir de partout, parce qu'elle se casse la gueule de partout. Est-ce que la tour de Babel n'est pas en chacun ? Oui, je veux dire, c'est... Ce désir de supériorité, ce désir de toute puissance, de montrer... et on voyait à qui a la cathédrale la plus grande, c'était l'époque des cathédrales. Aujourd'hui, qui a la tour la plus grande ? Bon. C'est en nous, c'est en moi, c'est en toi. Oui.
Est-ce que pour accueillir pleinement l'altérité, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà soit une identité propre ?
Oui, absolument. Justement, on sait qui on est, du coup on peut aller vers l'autre. Mais on sait qui on est. Absolument. Je pense que c'est d'où l'importance de vous former. D'où aussi, moi qui aime beaucoup votre génération et qui parle beaucoup à votre génération, je constate qu'il y a un lien, disons, un gap plus exactement, entre votre formation professionnelle et votre formation spirituelle. Et encore, vous êtes ici, c'est que bien, vous voulez bien vous former spirituellement. Vous savez que à la messe, on n'engueule que les présents. Donc du coup, forcément. Donc voilà. C'est. Mais je prends conscience de ça. Je prends conscience de ça. Je veux dire justement, ce gap entre votre formation professionnelle où vraiment vous êtes monté en gamme et la formation spi, je peux voir. Je travaille qu'avec votre génération, donc je peux très bien. Et la formation spi où bon, certains ont pris vraiment avec Even, avec un certain nombre de parcours qui sont proposés, mais le gap est quand même assez important. Oui. Alors, dans les entreprises, il y a une mauvaise ambiance, c'est un... Ok. Bon. Premièrement, il y a des entreprises qui sont toxiques. Tu poses ta dème. Mais il faut avoir un plan B. Tu poses ta dème, mais il faut avoir un plan B. Donc, tu vois, donc, si c'est toxique... Non, mais sérieux. Si c'est toxique... Je me rappelle comme ça un garçon qui était venu en retraite dans un cabinet d'avocats parisien. Il termine à 23h complètement... Des grands malades, quoi. Et à un moment donné, il a dit non, ça c'est plus. Il a. Pendant la retraite, il a envoyé sa démission. Non, mais il a dit je ne peux. C'est plus possible. Il gagnait de la thune, etc. Mais c'est plus possible. Mais je pense aussi. Attendez, mais quand vous partez, vous dites pourquoi vous partez.
Oui, c'est très important.
Oui. Pourquoi ? Non, non, ils n'ont pas eu une bonne lettre. Tu parles et tu prophétises. Non, mais tu dis, non, une bonne lettre, tout le monde la mettra au panier. Donc, où on appellera sur Delete, etc. Donc, non, c'est intéressant de voir l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait, le brave Pierre, qui est un pauvre type, je veux dire, comme vous, comme moi, un pauvre type, mu par l'Esprit Saint, bam, il s'adresse au peuple juif, etc. Voilà, vous tous qui êtes réunis à Jérusalem, il parle de dire pourquoi est-ce que je pars et de le dire à voix haute. Ça, je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas. Je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre comme vous vivez. Je ne veux pas être esclave de ce dont vous êtes esclave. Alors là, oui, ça peut. C'est intéressant. L'Esprit Saint fait prophétiser. Je me souviens, par exemple, bon, c'était pas religieux, mais enfin, y aller. Je me souviens, par exemple, d'une vidéo comme ça de. D'un garçon, ça remonte à peut-être 2-3 ans, mais un garçon, un centralien à Nantes, me semble-t-il, et il y avait la remise des diplômes. Et chacun adressait un mot. Et ce garçon adresse un mot au directeur. Il dit, monsieur le directeur, je ne veux pas être comme vous. Voilà. Alors, gros... Ouf. Je ne veux pas être un des rouages du capitalisme, je ne veux pas être à la merci de toutes les entreprises qui n'utilisent notre intelligence que pour s'enrichir. Jamais dans le cursus que j'ai eu, j'ai eu un cours d'écologie, jamais j'ai eu un cours de transition solidaire, jamais. Monsieur le directeur, je ne veux pas être comme vous. Ben ça, c'est prophétisé. Et ensuite, c'est standing ovation. Non, mais c'est vrai. Allez.